Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonjour à toutes et à tous, Didier Delade sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant.
Égyptien ?
Non, c'est le scribe. Et puis d'abord, les Bouddhas, c'est pas égyptien.
Pourquoi il reste assis comme ça avec ce drôle d'air ? Il attend quoi ?
Ben, il écrit. T'as pas vu le papier ?
Sauf que le papier, ça existait pas à cette époque. C'est du papyrus. Et son crayon, c'est une tige de roseau.
Et il écrivait quoi avec son roseau ?
Il écrivait tout. Il écrivait pour ceux qui ne savaient pas écrire.
Comme un écrivain public alors ? Il attendait que les gens viennent lui demander des trucs. Et il écrivait.
Je connais, il y en a même un près de chez moi de scribe. Il écrit tout ce que tu veux, même des lettres d'amour. Ça devait être cool un hiéroglyphe.
Moi c'est clair, je raconte pas mes histoires d'amour à un type assis par terre dans la rue. Et il écrivait quoi par les lettres d'amour des autres?
Il recopiait les documents administratifs. Il servait de photocopieuse quoi.
Alors c'est pour ça qu'il fait cette tête. C'est pas marrant comme boulot. En plus t'as même pas le droit à une chaise.
Le scribe accroupi, musée du Louvre.
Aujourd'hui, j'avoue que je suis particulièrement intrigué par notre invité, puisque vous l'avez peut-être deviné grâce à cette présentation humoristique du fameux scribe égyptien que l'on peut admirer dans sa vitrine au Louvre, je reçois au micro de Rendez-vous Compte une scribe de notre époque. Bonjour Madame Carla Pinto.
Bonjour Didier.
Carla, puisque vous m'avez demandé de vous appeler Carla, vous êtes en effet écrivain public. Vous exercez donc une profession venue de la nuit des temps et des hommes, selon la feuille de route de nos rendez-vous comptes. Il y a en effet toujours eu des professionnels de l'écriture pour autrui. Pouvez-vous par exemple nous donner quelques éléments sur l'évolution de ce métier en France à travers les siècles?
Alors en fait, la profession, le métier d'écrivain public a connu des hauts et des bas. En France, par exemple, au XIIe et XIIIe siècle, les clercs et les moines ont pris le relais des écrivains publics, donc forcément leur nombre a baissé. Au XIVe siècle, la profession a connu un certain développement grâce à l'ouverture des shops, qu'on trouvait sur les marchés, dans la rue, par exemple, un peu partout. Au XVIe siècle, leur situation est à nouveau assez mitigée. Certains écrivains publics gagnent plutôt bien leur vie, tandis que d'autres peinent à en vivre. Et je dirais que une des périodes les plus propices reste le XVIIe et XVIIIe siècle, notamment avec le développement de la biographie chez les personnes les plus fortunées, tandis que les pauvres font appel aux hommes d'église pour la rédaction de documents plus officiels. Au XIXe siècle, la profession connaît un renouveau. Donc 17-18e siècle, ça s'est bien passé. Renouveau, un petit peu mieux. Enfin, ça s'est encore un peu amplifié au 19e siècle. Bien que l'école soit devenue obligatoire et que l'illettrisme commence à reculer, mais on fait quand même appel, on continue de faire appel à un écrivain public, notamment pour les courriers officiels. Et enfin, au 20e siècle, le développement de la profession s'amplifie avec la création notamment de l'Académie des écrivains publics de France, à laquelle j'appartiens, donc en 1980, et enfin avec l'apparition de formations officielles, comme des diplômes d'État, comme la licence d'écrivain public de la Sorbonne Nouvelle.
Avant d'aller plus loin, pourquoi pas écrivaine publique ?
Alors, tout simplement pour des raisons liées au référencement naturel, tout simplement parce que le genre masculin est plus utilisé dans la recherche, notamment sur Google. Quand une personne cherche un professionnel, il va plutôt taper écrivain public plutôt qu'écrivaine publique. Du coup, j'ai gardé ce titre, bien que je sois pour la féminisation des métiers, mais clairement pour apparaître plus souvent et plus facilement lors des recherches sur Internet, je garde écrivain public, tant sur mon site Internet que sur ma fiche Google Business.
Pourtant, votre profession est essentiellement exercée par des femmes?
Tout à fait. Par exemple, la dernière enquête du Syndicat National des Prestataires et Conseils en Écriture, le SNPCE, qui a fait cette enquête date de 2022, et révèle que 70% de ses adhérents sont des femmes, donc ce sont des adhérentes. Mais cette part a tout de même baissé par rapport à, elle a baissé de 4 points par rapport à 2020.
Pour en revenir au petit reportage éducatif du Louvre sur le scribe égyptien, est-ce que vous exercez votre métier, assise par terre, dans la rue, attendant des clients illettrés pour écrire leurs lettres d'amour ?
Et non, mes conditions de travail sont tout de même bien plus confortables que celles du scribe égyptien. Je travaille essentiellement de la maison, assise à mon bureau sur un siège particulièrement confortable. Sinon, lorsque j'interviens en entreprise, je dispose également de bonnes conditions de travail, avec une chaise et une table dignes de ce nom. Et lorsque j'effectue les entretiens pour les biographies, qui généralement ont lieu chez mes clients, ces derniers sont extrêmement attentifs et veillent à mon confort. Je suis assis sur un siège ou un canapé avec une petite tasse de thé, quelques biscuits. Ils pensent à tout.
On peut s'étonner qu'à notre époque où une immense majorité de la population apprend à lire et à écrire, votre profession soit encore autant nécessaire. Alors pour savoir quel public a besoin de vos services, on écoute ce reportage de BFM TV intitulé « L'écrivain public prospère en temps de crise ».
Bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, vous ?
Les deux hommes se connaissent. Sédic, originaire du Soudan, est déjà venu à deux reprises. Cette fois, il a besoin d'aide pour rédiger une demande de naturalisation et un CV.
Même si vous êtes sans emploi actuellement, on peut quand même évoquer les périodes de travail, puisque vous avez eu des périodes de travail quand même.
J'ai l'impératrice, donc tout à fait.
Toutes les semaines, pendant sa permanence au sein d'une mairie, de plus en plus de personnes viennent frapper à la porte de Jean-Louis, cet écrivain public. Une forte demande qui explique le retour au premier plan de ce métier, pourtant ancien.
Pour moi, la raison principale donc, de ces demandes auprès des écrivains publics, c'est la crise. La crise qui fait que il y a de nombreuses aides qui sont demandées et pour lesquelles il y a des documents administratifs complexes à remplir et pas toujours compréhensibles par le commun des mortels.
Et si ce bureau est toujours occupé, c'est aussi parce que la prestation est gratuite, offerte par la municipalité. Du coup, pour répondre à la demande, Jean-Louis a dû allonger sa permanence d'une heure chaque semaine.
Carla, quels sont vos clients ? Est-ce qu'il s'agit, comme le suggère le petit reportage qu'on vient d'entendre, de personnes en situation de précarité ?
Alors pour revenir à la première partie de votre question, en effet, une immense majorité de la population apprend à lire et à écrire aujourd'hui, mais nombreuses sont quand même les personnes qui rencontrent des difficultés pour lire et écrire. Par exemple, c'est le cas des adultes étrangers qui arrivent en France et qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et aussi, en fait, c'est le cas aussi des personnes qui ne maîtrisent pas les outils numériques. La fracture numérique est tout de même assez prégnante dans notre pays, surtout aujourd'hui avec la dématérialisation généralisée de très nombreux services. Donc voilà, on peut aussi travailler pour ce type de personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Et beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères travaillent pour ces personnes dans le cadre des permanences, notamment en institution, que ce soit les mairies, les centres communaux d'action sociale ou en les recevant à leur cabinet. En ce qui me concerne, je ne travaille pas, je n'effectue pas de travaux, de prestations socio-administratives, donc je ne travaille pas avec ce type de public. Pour être honnête, lorsque j'ai lancé mon activité, j'ai vite compris que je n'étais pas capée moralement pour prendre de la distance et aider ces personnes en situation de précarité. De fait, j'ai pris la décision de me consacrer à la rédaction de biographies pour les particuliers ou bien de discours. Ainsi, j'accompagne les particuliers qui souhaitent transmettre leur récit de vie et leurs souvenirs à leurs enfants, leurs petits-enfants, voire à leurs arrière-petits-enfants. Et j'accompagne également je conseille les entreprises et les établissements publics dans la rédaction de leurs outils.
Première pause musicale, une chanson de Régine, datant de 1966. Carla, vous nous expliquerez ensuite si elle correspond à votre travail. Régine, les petits papiers.
Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant. Ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent.
Vous êtes toujours bien sur IDFM. Pour ce rendez-vous compte, nous retrouvons Madame Clara Pinto, écrivain public. Madame, travaillez-vous sur des petits papiers, comme origine, que vous brûlez une fois votre mission terminée? Autrement dit, est-ce que vous gardez la mémoire et en mémoire les écrits que vous avez produits?
Alors, tout d'abord, j'ai un cahier sur lequel je prends des notes, je dresse un plan, je jette des idées et sur lequel je peux commencer à rédiger les premières lignes d'un texte. Mais mon principal outil demeure évidemment mon ordinateur portable sur lequel je travaille, je classe mes travaux, que je transfère ensuite sur un disque dur extérieur. Donc oui, je garde la mémoire de ces écrits, que je garde aussi en mémoire, mais uniquement sur une période assez courte, maximum une année, et après je brûle.
D'accord.
Je brûle mes petits papiers.
Vous vous engagez à valoriser le savoir-faire et l'expertise des entreprises qui font appel à vos services. Mais cela nécessite de vous tenir constamment informé des évolutions du monde du travail, l'attente des consommateurs, l'importance des réseaux sociaux. Comment faites-vous?
Alors en effet, je me dois de me tenir constamment informé de ce qui se passe, de l'évolution notamment du milieu, de l'univers du travail. Et le dieu Internet est un précieux outil, forcément, dans ma recherche constante d'informations et de mise à jour de ces informations.
De toute façon, vous avez quand même une bonne expérience du monde du travail, y compris dans des secteurs prestigieux, je crois.
Effectivement, en fait, après mes études et un séjour en Grande-Bretagne, j'ai commencé ma vie professionnelle en travaillant dans le luxe. Et durant près de 20 ans, j'ai occupé des postes dans la communication, notamment en gérant les relations presse et en organisant des événements chez Kenzo, Lacoste ou encore Louis Vuitton. Et dans le cadre de ces fonctions, je rédigeais déjà à l'époque des documents tels que les communiqués de presse et les dossiers de presse.
Quelle aide apportez-vous également aux établissements publics? Souvent, on peut dire que la communication institutionnelle n'est pas leur point fort.
Alors, par exemple, en 2020, j'ai travaillé pour deux établissements publics nationaux. Je rédigeais les comptes rendus des réunions des instances représentatives du personnel, telles que le CSE, qui est le Comité Social et Économique, ou encore la CSSCT, qui est la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Et plus récemment, par exemple, je viens de terminer pour la mairie d'Argenteuil la rédaction d'un ouvrage relatant les souvenirs de plusieurs seniors argenteuillais nés dans la ville dans les années 20, 30 ou qui y vivaient depuis 5 ou 6 décennies. Donc l'idée était de recueillir leurs souvenirs d'enfance, d'adolescence ou de jeunes adultes et qu'ils nous expliquent comment étaient les paysages à l'époque, quel était l'urbanisme, comment vivait-on à cette époque, notamment avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, comment étaient les commerces. Et j'avoue que ce fut un travail passionnant et le livre devrait paraître en octobre 2023.
Eh bien, voilà le thème d'une future émission.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que des associations vous sollicitent également?
Alors, en fait, à ce jour, je n'ai jamais eu de demande émanant d'une association. Ça viendra peut-être, mais pour l'heure, rien.
Alors, j'ai lu aussi dans votre cursus que vous rédigez des discours pour des hommes politiques.
Alors, à date, je n'ai rédigé aucun discours pour une personnalité politique. En revanche, j'ai collaboré de manière évidemment tout à fait confidentielle à plusieurs reprises avec le patron d'une grande entreprise qui me sollicitait pour la rédaction de ses prises de parole, excusez-moi.
D'accord. J'ai lu également que vous pouviez rédiger des éloges funèbres. Mais alors, dans ce cas, il faut introduire de l'émotion, valoriser le défunt, que vous ne connaissez sans doute pas. C'est pas facile, ça?
Non, effectivement, c'est un exercice un peu complexe dans la mesure où, par exemple, il y a quelque temps, j'ai eu à rédiger le discours pour une dame qui avait perdu son mari dans des conditions assez difficiles. Donc, c'est forcément très douloureux et surtout il faut aller vite en raison des délais d'incinération liés à la cérémonie. Il faut aller très vite, donc évidemment je m'entretiens avec la personne Et donc, avec la personne qui me commande le travail, je lui demande des informations sur la défunte ou le défunt pour pouvoir rédiger le discours. Je lui pose des questions et je rédige dans la foulée. En fait, généralement, j'ai 2 jours pour effectuer ce travail. Ça va assez vite. Avec le retour de la personne qui le commande.
Voilà. De quoi rester en forme intellectuellement, de toute façon. Mais est-ce que vous lisez vous-même parfois ces discours et ces éloges funèbres ?
Non, jamais. Je les écris toujours pour autrui.
D'accord. Autre sujet d'actualité, est-ce que vous craignez qu'un jour l'intelligence artificielle supprime votre profession ? Extrait d'une chronique d'Anissé Bida d'Europe 1, le 15 septembre 2022.
Plus fort que le correcteur orthographique ou grammatical, il existe désormais une intelligence artificielle, entre guillemets, écrivain public. En clair, Anissé, un logiciel qui rédige des textes à notre place.
Oui, et c'est d'une efficacité mais redoutable. Ah, vous lui demandez par exemple, écris un mail à Alexandre pour l'inviter à dîner ce week-end.
Bah, pourquoi pas ?
Pourquoi pas, hein ? Et ben vous réglez ensuite un style plutôt formel pour Alexandre, plutôt enjoué. Et il va vous proposer, mon très cher Alexandre, j'espère que vous vous portez bien. Oh. C'est avec grand plaisir que nous serions prêts à vous accueillir ce week-end pour un repas entre amis. Ça pourrait être une formidable occasion de se retrouver. Faites-moi savoir si vous êtes disponible amitié.
Oui. Ouais, beaucoup de chichis.
Mais hein. Tout ça, c'est évidemment, ça, on a dit que c'était formel. Hein, et tout ça avec une grammaire et une orthographe impeccable. Et ce qui est bien, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, si vous recevez un mail d'invitation et que vous savez pas quoi répondre, pof, vous le collez dans l'application, il va le comprendre et rédiger une réponse, là encore, formelle, informelle, amicale, ferme, c'est vous qui décidez.
Alors, donc ce n'est pas du charabia, c'est vraiment un texte qui est bien écrit.
Donc Carla, est-ce que les scribes vont être définitivement remplacés par l'intelligence artificielle et exposés à leur tour dans une vitrine du Louvre ?
Alors, à ce stade, je demeure plutôt confiante sur la pérennité de mon métier pour 3 raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que des personnes de mon entourage ont effectué des tests sur des audios qu'elles avaient et il s'est avéré que ChatGPT, pour ne pas le citer, avait ajouté des informations totalement fausses. ChatGPT avait brodé, extrapolé, forcément en fonction aussi de ce qu'il avait pu trouver sur Internet. Donc voilà, et c'est sûr que là, l'être humain... Les qualités de l'être humain sont nécessaires pour la précision, la compréhension textuelle et la personnalisation. Donc, et sur le respect de l'intégrité du discours et de sa signification. Deuxièmement, pour le moment quand même, de gros doutes planent autour de la protection des données personnelles et des données confidentielles. Par exemple, je rédige régulièrement des comptes rendus pour des entreprises qui sont confidentielles. Donc, vous donnez l'audio à un logiciel, il se peut que toutes ces informations confidentielles se retrouvent également sur la toile. Donc, nous, en tant que professionnels, nous sommes soumis à des accords de confidentialité très stricts. Troisièmement, les écrivains publics possèdent des atouts que l'intelligence artificielle ne peut reproduire, en tout cas pour le moment. Il s'agit de l'expérience, de l'émotion et de la capacité à hiérarchiser les informations. Donc, quand vous vous adressez, quand vous faites un entretien, vous faites une biographie avec une personne âgée, voilà, c'est vous êtes un être humain face à un être humain. Et donc voilà, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à mon métier. Mais bon, il se peut que la technique s'affine. Toujours un peu plus, donc l'avenir nous le dira.
Alors vous êtes également biographe, hein, vous l'avez dit. Vous avez d'ailleurs cette magnifique formule, je vous cite, « Je vous aiderai ainsi à faire de votre vie une histoire dans le respect de votre style et avec les mots justes. » Comment y parvenez-vous ?
Alors tout d'abord, l'idée c'est... j'écoute. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais... il faut écouter la personne, parce qu'il faut écouter la façon dont elle s'exprime, sa syntaxe. L'idée, c'est de reproduire quand même un ouvrage qui lui ressemble. Donc voilà, j'écoute énormément ce que les personnes me racontent, leur vie, et pour les reproduire ensuite. Et puis je creuse, je tire des fils pour développer certains points comme les sentiments. Parce que bien souvent, les personnes, notamment les personnes plus âgées, et particulièrement les messieurs, ne s'attardent pas trop sur leurs émotions passées. Alors je creuse. car il me semble que la retranscription des ressentis apporte toujours plus de profondeur à un récit et généralement les personnes se livrent ensuite assez facilement.
Est-ce qu'il y a une de ces biographies qui vous a particulièrement marqué ?
En fait, toutes les biographies que j'ai rédigées m'ont toutes marquée, car elles m'ont toutes appris des choses, notamment sur des événements historiques comme la Seconde Guerre mondiale, comme la vie en Algérie avant la guerre, ou comme la vie sous les régimes communistes, et plus particulièrement en Bulgarie et en Roumanie. Par exemple, j'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises sur la Seconde Guerre mondiale, mais à aucun moment les propos n'ont été redondants. Une fois, ça a été le conflit vu par des Français ayant vécu l'arrivée des nazis et ayant vécu l'occupation du territoire français par l'armée allemande. Une autre fois, c'était le conflit vécu par une famille bourgeoise bulgare vivant à Bucarest, qui fut ensuite persécutée par les communistes. Une autre fois, c'était le conflit vécu par une famille juive roumaine qui a été raflée par les autorités roumaines et envoyée dans un ghetto ukrainien. En fait, les histoires sont toutes différentes, même lorsque les personnes vivent le même événement historique. D'autres récits m'ont également particulièrement émue en raison de la souffrance vécue par mes clientes, en l'occurrence c'était des femmes. Par exemple, une femme qui a subi pendant 13 ans des violences conjugales et qui après une énième menace de mort de la part de son mari, à son égard s'est sauvée en passant par la fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison avec ses deux petites filles dans les bras, ou encore une mère dont la fille s'est suicidée à l'âge de 24 ans en se jetant sous un TGV. Donc en fait, en ce qui me concerne, toutes les biographies que j'ai rédigées m'ont toutes marquée.
On écoute le témoignage d'Alice Ralliez, écrivain public, qui définit les qualités indispensables du biographe. C'est un reportage de BFM Lille datant de 2017.
Mon métier, c'est vraiment un métier d'écoute. Il faut être comme une éponge, il faut absorber ce que la personne a à dire. Et puis beaucoup de tact, de sensibilité, et puis être conscient que ben, quand la personne vient chez vous, raconte des souvenirs forts, bouleversants, bon, il faut pouvoir apporter aussi un certain réconfort, ne serait-ce que pour qu'elle puisse rentrer chez elle, entre guillemets, en bon état. Il faut avoir beaucoup de tact, il faut être un peu psy quand même.
Carla, est-ce que, comme Alice qu'on vient d'entendre, vous êtes un peu ou beaucoup psy ?
Alors effectivement, lorsqu'on travaille sur la biographie d'une personne, il faut en effet faire preuve de bienveillance, d'empathie, de tact et de patience. Et de patience, car le récit des souvenirs peut être extrêmement douloureux. Les vies sans embûches, sans souffrances sont extrêmement rares, voire inexistantes. Et même à plus de 90 ans, le malheur survenu, lorsqu'on relate un malheur survenu à l'âge de 20 ou 30 ans, il demeure tout de même extrêmement présent. Et bien souvent, à chaque biographie que j'ai pu faire, les larmes étaient présentes. Donc, oui, on n'est pas psy, mais on a quelques qualités en commun, pourrait-on dire.
Quand vous aidez un particulier à faire de sa vie une histoire, selon votre formule, est-ce que vous acceptez les termes de prête-plume ou écrivain fantôme, comme on les emploie maintenant ?
Oui, totalement. Même si je suis toujours citée à la fin de l'ouvrage, comme quoi ce livre a été rédigé en collaboration avec Carla Pinto, etc., etc., je m'efface derrière mes clients. Il s'agit de leur histoire, de leur livre qu'ils réalisent à leur image et selon leurs désirs. Mais évidemment, je les conseille et je demeure attentive à leurs interrogations et à leurs demandes.
La profession d'écrivain public n'est régie par aucune réglementation particulière. Par contre, deux universités proposent des formations spécifiques délivrant un diplôme.
Donc en effet, il y a la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui délivre une licence qui s'intitule « Conseil en écriture professionnelle et privée écrivain public ». Il y a également l'Université de Toulon, qui délivre la licence professionnelle « Intervention sociale ». Accompagnement des publics spécifiques, parcours écrivain public et conseil en écriture.
Alors, il existe aussi l'Académie des écrivains publics de France, créée en 1980, vous l'avez signalé tout à l'heure, la plus ancienne des associations d'écrivains publics professionnels. Je crois que vous la connaissez bien d'ailleurs.
Oui, en effet, j'ai passé mon agrément en 2017 et je suis devenue membre de l'AEPF dans la foulée lorsque j'ai obtenu mon agrément, car celui-ci est obligatoire pour faire partie de l'association. Puis en 2018, je suis entrée au conseil d'administration qui compte 9 membres.
Alors cette association a mis en place une procédure d'agrément qui constitue en quelque sorte un label de qualité, de sérieux et d'éthique professionnelle. Et pour l'obtenir, j'ai regardé, il faut réussir des tests qui sont pas forcément faciles.
En effet, nous avons tout d'abord des tests écrits liés à la connaissance de la langue française, avec un résumé de texte, de l'orthographe à corriger, un test de relecture-correction et d'autres tests professionnels écrits. Et nous avons aussi des épreuves orales avec un exposé argumenté, des tests professionnels oraux qui s'apparentent en fait à des jeux de rôle et un entretien où le postulant est sondé sur sa connaissance de la profession et sur ses conditions d'exercice. L'idée est de voir un petit peu s'il a travaillé son projet et de connaître un peu ses motivations.
Votre profession obéit aussi à des règles déontologiques strictes.
En effet, dès lors, enfin, ce n'est pas tant notre profession, c'est comme la profession d'écrivain public n'est pas réglementée, l'AEPF a tenu à rédiger une charte déontologique dans laquelle est inscrit que l'écrivain public est tenu au secret professionnel et qu'il doit faire preuve d'honnêteté dans le respect de la déontologie de la profession. Mais c'est-à-dire qu'un écrivain, un écrivain public qui n'adhérerait pas à l'AEPF peut après faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, dès lors que vous adhérez à l'AEPF, vous devez obligatoirement respecter la charte déontologique.
Voilà, avis aux auditeurs qui seraient tentés de faire appel à un écrivain public. Sur votre site personnel, vous avouez une véritable passion de l'écriture pour autrui, mais est-ce que vous écrivez également pour vous, tout simplement? Est-ce qu'un jour vous rédigerez l'histoire de votre vie?
Alors non, je n'écris pas pour moi, et non, je ne pense pas que je rédigerai non plus l'histoire de ma vie, car comme mes clientes et mes clients, je trouve qu'il est extrêmement difficile de prendre du recul par rapport à sa vie et de mettre en perspective les événements qui nous ont concernés. Je le fais très bien pour autrui, mais je serais bien incapable de le faire pour moi-même.
Vous pourrez faire appel à un écrivain public.
Tout à fait.
Pour terminer, on écoute une très belle chanson des Kids United qui s'intitule « On écrit sur les murs » en faveur des enfants aidés par l'UNICEF à travers le monde.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Carla, qu'aimeriez-vous écrire sur les murs, comme les enfants, pour que le monde et l'humanité se portent mieux?
Je suis d'une nature bien trop pessimiste pour penser que le monde et l'humanité puissent aller mieux un jour. Mais je crois que mon premier réflexe serait d'écrire que l'être humain est finalement la création la plus désolante qui ait jamais existé, tant il a été incapable de vivre en harmonie avec les autres et de préserver ce bien précieux qu'est notre planète. Je suis vraiment désolée pour ce manque total d'espoir.
Voilà, notre émission se termine. Je voulais remercier Carla Pinto, écrivain public. Vous pouvez la retrouver en tapant sur Google, n'est-ce pas, et pas écrivaine publique. C'était Didier Delatte sur IDFM. Merci à Francky pour la réalisation. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Val-d'Oisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.